Coucou les amis flamenquistes, nous voici rentrés dans la série des canals flamenco des gros pulls épais, avant d'attaquer la série des émissions polaires d'ici un mois. Nous serons ensemble comme tous les jeudis jusqu'à 15h des poussières, pour écouter encore et toujours du cante et du toque flamenco, pour parler des manifestations en région toulousaine jusqu'à fin décembre. Mais pour changer aujourd'hui, nous irons un peu plus vers le nord de la France, car d'ici quelques minutes, un artiste sera en live avec nous pendant une vingtaine de minutes pour parler de sa carrière, du flamenco, du jazz manouche, de guitare classique. Et comme j'aime toujours faire durer un petit suspense, voici un indice musical pour nous réchauffer le cœur en ce début de saison d'hiver.
Thank you.
Bouleria, tiré de l'album Mi Camino en el Flamenco, tiré donc de l'album du même nom, Mi Camino en el Flamenco, de Raphaël Faïs, qui sera en live depuis la région d'Orléans par téléphone d'ici quelques minutes, non, de quitter donc pas l'antenne. Raphaël Faïs, qui est un guitariste incontournable de la scène française, puisqu'il compte déjà une vingtaine d'albums à son actif, enregistrés depuis une trentaine d'années déjà sur scène. Raphaël est tombé très vite dans la marmite de la musique, et surtout du jazz manouche essentiellement grâce à son père Louis, qui va vite l'initier au sublime des glissandos, des vibratos, des improvisations si spécifiques de la guitare jazz manouche. Il va naître musicalement en premier lieu par conséquent dans l'univers marqué au fer rouge par le grand Django Reinhardt. Sa construction musicale et sa personnalité vont toutefois petit à petit le pousser à ouvrir les portes des univers classiques et flamenco. Il est rare aujourd'hui de rencontrer un guitariste qui ait autant de compétences et de virtuosité dans ces trois univers, qui ne sont pas certes fermés sur eux-mêmes, mais qui ont chacun leur code, leur couleur, leur harmonie, mais aussi sur le plan humain, leur mentalité singulière. Il a réussi tout au long de ces années à les faire côtoyer. Cela dit, en ce qui nous concerne, c'est surtout sa passion flamenca qui nous intéresse en l'occurrence. Comment le flamenco a-t-il pu autant enflammer le cœur musical de Raphaël? Déjà en 1987, lorsqu'il fait la connaissance de Paco de Lucía à Paris, il se passionne déjà pour ses harmonies flamenca. Raphaël a déjà composé à cette époque des œuvres d'inspiration flamenca, notamment sur des alegrías, des fandangos, qu'il exécute avec aisance avec une technique qu'il interprète à la púa, appelée plectre, une interprétation qui reste singulière et spécifique à ses personnalités musicales. Raphaël Faïs se retrouve donc au carrefour de deux styles gitan et manouche, et en quelque sorte crée le trait d'union entre ces deux communautés gitanes que sont les manouches, donc européens, et les hispano-andalous. Il sera avec nous pour approfondir ces thèmes d'ici quelques minutes. Thank you. Raphaël Faïs, donc dans un morceau tiré de son album Andalucía, c'était pour Taranta y Fandangos. Raphaël Faïs, donc, qui je le rappelle sera avec nous d'ici quelques minutes au téléphone, en live depuis la région d'Orléans. Raphaël Faïs, qui est un grand guitariste français, de jazz manouche, de flamenco et classique. Je vous rappelle que vous êtes sur Canal Flamenco, Canal Sud FM 92.2. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h des poussières. Et en attendant donc l'appel de Raphaël, voici une balade de son album Mi Camino en el Flamenco. Je crois que nous sommes à l'antenne avec Raphaël Faïs. Raphaël ?
Oui, bonjour. Bonjour Jean-Marc.
Bonjour Raphaël. Nous sommes ravis de vous accueillir sur l'antenne de Canal Flamenco Toulouse, Canal Sud 92.2. Raphaël, donc nous avons fait une petite présentation avant que vous interveniez sur l'antenne. Mm-hmm. Donc encore une fois, merci infiniment de nous rejoindre.
Moi, je vous remercie. Je suis très honoré de votre invitation. Sachez-le.
Voilà. Et vous habitez, Raphaël, en région d'Orléans, je pense.
J'habite en région centre, oui.
Voilà. Et donc nous avons essayé de retracer brièvement en début d'émission votre riche parcours musical.
Oui.
Et en dernier lieu, la remarque a été de montrer à quel point vous faites partie des musiciens qui font sans doute le mieux le trait d'union entre les peuples gitans et manouches au travers de la singularité de leur art respectif.
Écoutez, oui, moi j'ai commencé la guitare à l'âge de 12 ans. Mon père jouait du jazz, donc il m'a tout de suite appris, quand il a vu que j'aimais la guitare, il m'a tout de suite appris à jouer dans le style de Django Reinhardt. Et comme il était très bon soliste, donc je l'accompagnais. Après, il m'a appris petit à petit les premiers briefs des chorus, qu'on appelle les solos. Ensuite, je suis allé en classe de guitare classique à Paris parce qu'il voulait que j'apprenne à lire la musique. Et ensuite, dans cette même école, il y avait une classe de guitare flamenca, la guitare flamenca. Donc j'ai entendu du flamenco aussi en même temps. Et il est évident que ça m'attirait aussi également. Voilà.
Donc en fait, vous avez anticipé la première question que je vais vous poser. Cette émission s'appelle Canal Flamenco, nous sommes donc dans une émission qui est consacrée à cet art. J'allais vous demander justement comment cet attrait était né, de quelle manière, et donc c'est au départ par votre père, je dirais, par les premières...
mon père était guitariste professionnel, donc lui il a tout de suite vu que je mordais vraiment à l'hameçon, on va dire ça comme ça. Ensuite, bon, il m'a suivi. Après, bon, ma décision dans ma vie de faire du flamenco et un jour d'apprendre à jouer du flamenco, ça, c'est venu de moi, vraiment. Hein. En sachant que j'ai découvert, Paco de Lucía, évidemment, à la télé française, dans une émission à l'époque qui s'appelait Guitare Guitare. C'était des émissions très intéressantes, d'ailleurs. On voyait plein de choses sur la guitare à cette époque, à la télé. Et puis, par la suite, j'ai fait une tournée dans les années 80, où il y avait un tableau avec des danseuses, un guitariste, et bon, je suis devenu ami avec le guitariste, et puis j'ai appris à jouer avec lui des choses, et quand cette tournée s'est terminée au bout de 2 mois et demi, je suis rentré, et là, il me manquait quelque chose, c'est que j'avais envie vraiment de continuer, quoi. Donc, je suis allé voir un concert de Paco de Lucía à Paris, et bon, je suis ressorti, évidemment, enchanté, ébahi, et puis j'étais un peu sous le choc, quoi, de voir ce groupe avec ses musiciens... tant flamenco qu'en même temps aussi jazz, vous voyez. Donc à l'époque, voilà, je me dis, habitant vers Paris, habitant dans la région centre, comment vais-je faire pour rencontrer des guitaristes qui jouent du flamenco? Et miracle, il y a Raphaël Riqueni, qui est un excellent guitariste, qui vient jouer aussi à Paris, et je vais rencontrer dans sa première partie des guitaristes qui sont extraordinaires, qui sont Daniel Manzanas, Manuel Delgado. Et il y aura José Palomo qui joue aujourd'hui avec moi à la percussion, et je vais les voir jouer en première partie, et là je vais encore une fois être sous le choc de leur jeu, de leur toquer, et je vais pouvoir les rencontrer, et ils m'ont dit, mais nous on habite à Paris, on est à Paris, alors là ça va être quelque chose de joyeux pour moi à ce moment-là, parce qu'on va échanger nos adresses, et là je vais commencer avec eux à apprendre, et ça va être un échange en fait, parce que je vais leur apprendre moi à improviser, à les grilles d'improvisation, comme on se sert de l'improvisation dans mon style à l'époque, et eux vont m'apprendre le compas, ils vont m'apprendre les styles de musique que j'ai envie d'apprendre, quoi. Donc je vis un peu dans un rêve, et en même temps ça va me servir par la suite, parce que je vais être motivé. Le flamenco va me motiver pour jouer de la guitare, quoi. Voilà.
Oui, parce que Raphaël, en préparant cette émission, nous avons discuté longuement ensemble au téléphone, et vous avez eu une remarque très juste, c'est que d'ordinaire, les guitaristes flamenco justement ne savent pas improviser totalement. Nous avons eu des discussions notamment avec Juan Carmona dans une émission précédente. Paco de Lucía lui-même avait appris à improviser avec McLaughlin et Aldi Meola. Et vous, justement, Raphaël, vous avez eu un parcours un petit peu inverse, c'est-à-dire que vous êtes parti d'abord avec, je dirais, le dieu pour vous était Django Reinhardt. Vous avez appris à improviser très rapidement et vous êtes allé vers le flamenco.
Oui, je suis allé vers le flamenco parce que, en fait, vous parliez du trio Aldi Meola, McLaughlin et Paco de Lucía. Je pense que chez beaucoup de gens, ça a laissé beaucoup de traces positives. Hein, je m'entends bien. Moi, j'ai vu un guitariste flamenco pour une fois dans toute l'histoire de la guitare flamenca jouer avec des musiciens qui jouaient du jazz, qui étaient d'excellents guitaristes, Aldi Meola et McLaughlin. Et moi, j'ai vraiment, ça m'a marqué ça. Ça aussi, il n'y a pas que Django qui m'a marqué. En fait, cette réunion m'a marqué. Et la suite aussi m'a marqué. Et je me suis posé la question à ce moment-là, quand ils se sont séparés, Est-ce que moi, avec ma poua, avec mon médiator, avec mon plectre, est-ce que je pourrais pas essayer de jouer du flamenco? Ça a été ma question que je me suis posée pendant des années. Bon, beaucoup de gens m'ont convaincu du contraire. Hein. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Mais non, non, laisse tomber, fais pas de flamenco, continue à jouer. » Mais j'étais très attaché au flamenco et plus tard, en avançant dans ma vie, j'étais très heureux de persister et d'apprendre ce que j'ai appris sur le flamenco parce que j'ai pas toujours été heureux en tant qu'artiste dans le jazz, en fait. Hein, vous voyez.
Quand vous dites que vous n'avez pas été tout à fait heureux, c'est-à-dire qu'il y avait un petit manque dans votre expression artistique?
Non, c'est pas du tout dans mon expression artistique parce que moi, quand je joue du jazz, je ne sais jouer que du Django Reinhardt. Si vous me dites « Jouez-moi un morceau de jazz », je vais vous jouer du Django Reinhardt. Mais je ne sais pas jouer autre chose en matière de jazz. Hein. C'est ma culture, c'est ce que m'a appris mon père. Par contre, non, là où j'ai un peu... heureusement, il y a eu le flamenco qui m'a motivé, qui m'a donné une force morale extraordinaire dans cette musique. C'est ce que j'ai puisé, c'est ce que j'ai trouvé. C'était pour moi un médicament aussi en même temps. Hein. C'est un peu vulgaire de dire ça, parce que le flamenco, pour moi, c'est autre chose qu'un médicament. Encore, c'est plein de parfums, c'est plein de choses, quoi. Mais j'ai eu besoin de cette musique parce que j'ai été un peu, je dirais, on va parler de déception par rapport à un manque d'engagement, un manque d'attention par rapport à certains festivals où j'écrivais pendant des années, où on me répondait jamais, où on me disait que ce que je faisais était très très bien, on me disait jamais que c'était mal. Mais en fait, je restais toujours comme ça. Puis un jour, je me suis aperçu que, heureusement que je jouais du flamenco, parce que c'est ce qui me donnait justement cette force de lutter contre tout ça. Et que si j'avais peut-être pas fait de jouer de flamenco, j'aurais peut-être été un guitariste frustré et mal dans ma peau, parce que je me serais senti un peu abandonné, quoi.
Et vous avez bien rebondi, Raphaël, car nous avons écouté en préambule de cette émission Mi Camino en el Flamenco, qui est pour Bouleria, c'est vraiment impressionnant. Hein.
Écoutez, je vous remercie infiniment. Vous savez, je vais vous dire une chose du fond du cœur. Bon, l'Espagne est un pays que j'aime énormément. Et je suis, très, très, très passionné par ce que je fais. Et j'ai beaucoup de chance parce que je le fais par passion surtout. Je le fais par amour, par passion. Et c'est très important d'arriver à avoir fait toute la carrière que j'ai faite, parsemée de haut, de bas, de très bas, de haut, de bon, et d'arriver de toujours avoir cette volonté de vouloir faire ce que je fais actuellement. Parce que c'est quelque chose qui me donne une joie de vivre et tous les jours je le fais, je l'écoute. Le flamenco, parce que je suis aussi revenu vers d'autres guitaristes. J'ai évidemment une admiration incontournable et absolument grandissante. Il n'y a pas de montagne pour citer le sommet d'admiration que je peux avoir pour Paco de Lucía, mais j'ai aussi de l'admiration pour des guitaristes que je ne connaissais pas dans ma vie, parce que j'habitais en France, je suis né en France, et que quand j'ai vu Sabicas jouer, ou quand j'ai entendu des disques de Sabicas, par exemple, je suis revenu aussi vers des guitaristes plus antigos, et qui m'ont aussi appris beaucoup de choses, parce que j'avais besoin d'apprendre. Et je suis une personne qui adore et qui aime continuer à apprendre.
C'est-à-dire que Sabicas est le guitariste, le grand maître du flamenco, qui a été le dernier maître flamenco, juste avant justement cette ouverture au jazz du flamenco.
Oui, c'est ça. Et c'est ce qui a pu manquer à un personnage comme moi en tant que guitariste, c'est d'adorer le flamenco, mais de ne pas assez connaître un peu ce qu'il y avait avant, en fait. Hein, toute cette histoire, tous ces gens qui ont joué, qui à l'époque n'ont pas vraiment passé les frontières de l'Espagne pour aller porter le flamenco, comme ça c'est. Mais ça, c'est l'évolution du monde, ça va aussi avec l'évolution des sociétés. Et je pense qu'aujourd'hui, le flamenco est beaucoup plus élargi grâce à Paco de Lucía, évidemment. Mais il a grandi. Et aussi, il y a aussi quelque chose que je voudrais dire aujourd'hui, en 2012, c'est qu'on a une très très belle population en France qui fait du flamenco, qui joue du flamenco. Il y a de très très bons guitaristes, des danseurs, des danseuses, des gens qui chantent. Vous savez, ça a évolué depuis les années 80. Il y a vraiment des gens en France qui ont une grande qualité, ça je le reconnais.
Et notamment à Toulouse.
Et à Toulouse aussi.
Il faut être cocorico. Canal Flamenco est ici à Toulouse. Alors justement, alors Raphaël, juste avant de faire, parce que c'est une émission, je vois qu'il y a énormément de choses à dire à votre sujet, juste avant de faire la première pause musicale, car Canal Flamenco, je le dis souvent, est aussi une émission musicale, nous allons passer un de vos titres, c'est un Zapateado, qui est un morceau qui est tiré de votre album Andalucía. Juste une parenthèse par rapport à Toulouse, je suis en train de regarder la pochette de votre album Mi Camino en el Flamenco, il y a une danseuse de Toulouse dessus, apparemment.
Oui, c'est Rosario qui a sa petite école à Toulouse et qui donne des cours de danse. Et si elle m'entend, ben je l'embrasse très fort et je pense à elle. Voilà.
Voilà, c'était une petite parenthèse, une petite dédicace pour Rosario.
Je l'ai choisie parce que je l'ai rencontrée à un festival, elle dansait et je me suis dit, elle a vraiment le prototype et le type parfait pour poser sur ma pochette de disque. Et elle l'a accepté très gentiment. Et voilà.
Très bien. Donc, surtout, Raphaël, vous ne quittez pas l'antenne. Nous allons passer donc en première pause musicale le Zapateado donc, de votre album tiré donc qui s'appelle Andalucía.
Muchas gracias.
Zapateado donc de Raphaël Faye sur son album Andalucía. Vous êtes en direct donc sur Canal Sud FM Toulouse 92.2 dans l'émission hebdomadaire Canal Flamenco. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h des poussières et donc nous étions en ligne avec Raphaël Faye. C'est Raphaël ?
Oui, je vous entends.
Voilà, donc ce Zapateado, donc, nous disions en antenne que vous êtes également un guitariste classique, que vous jouez avec les doigts.
C'était une étude pour guitare que j'ai composée dans les années, on va dire, allez, dans les années 80-90, quoi.
D'accord. Et vous aimez composer, on retrouve souvent dans votre musique classique hein, également, des intonations de Chopin, de Villa-Lobos, Barrios, vous avez étudié les grands classiques.
On va dire que, oui, je suis, j'ai un côté assez gourmand, hein. Un peu dinosaurien, on va dire comme ça, de vouloir tout connaître. C'est pas la passion de l'instrument qu'est la guitare, de ces compositeurs, de ces gens qui ont fait évoluer cet instrument, alors que ça a toujours été le piano qui a été toujours le premier instrument, La guitare est un instrument de vagabond, hein, autrefois. Et donc, si vous voulez, moi, j'ai été heureux de découvrir, grâce à mon père, qui m'a inscrit à des cours, et j'ai pu découvrir ses compositeurs. Donc, j'ai aussi découvert donc, la musique espagnole, Albéniz Tárrega, qui est un grand guitariste, qui jouait sur une Torres, qui était des guitares classiques à l'époque, qui sonnaient très très bien. C'est lui qui a fait évoluer la guitare Torres. Et là, j'ai commencé à découvrir Granados et Transcriptions de Segovia. Et j'ai écouté tous ces disques, tous les grands maîtres de cette époque, Narciso Yepes. Et j'ai aussi vécu une époque très extraordinaire par rapport à la guitare. C'est les gens allaient acheter des guitares à l'époque, quand j'ai commencé, pour jouer Jeux Interdits.
Oui.
Et ça, c'est extraordinaire, parce qu'à cette époque, il y a une effervescence, il y a une évolution, une joie immense chez les gens qui venaient prendre des cours de guitare classique, et des cours de guitare tout simplement, même des cours de guitare flamenca, puisque où j'allais à l'académie de guitare, il y avait un professeur que j'aimais beaucoup, qui a disparu, qui s'appelait José Peña, et qui enseignait aussi la guitare flamenca à Paris. C'était à l'époque, vous savez, après rue Descartes, le club plein vent qu'avait créé Monsieur Imbard, où venait jouer Alexandre Lagoya, Ida Presti. Vous voyez, ça remonte à très très loin.
En effet.
Voilà, donc j'ai un peu traversé cette époque avec les valses d'Antonio Loro, tout ça. Tout le monde voulait jouer, et j'ai vu des gamins, à l'époque où j'ai commencé, qui avaient entre 12 et 13 ans, et qui faisaient des progrès assez extraordinaires en guitare, quoi.
Une autre question, Raphaël, est-ce que les guitaristes manouches qui ont débuté comme vous s'intéressent autant au flamenco, ou est-ce que vous êtes une exception ?
Ben, je suis une exception, je pense, par rapport à l'intérêt que je porte au flamenco. Je pense que je suis le seul à avoir fait cette démarche. Je pense aussi que je suis le seul à y croire et à continuer d'y croire, parce que je prépare 3 disques, je fais une trilogie, ça fait déjà depuis plusieurs années que je travaille sur des compositions. J'essaye de faire évoluer mon style par rapport et à la façon dont je le joue, je l'interprète. J'essaye de trouver quelque chose d'original, j'essaye de faire évoluer, toujours avec cette passion. Donc je ne pense pas que les gens qui jouent du jazz manouche ou s'intéressent forcément. Je pense qu'il y a quand même une séparation. Hein. Quand vous aimez la guitare, comme moi j'ai aimé la guitare acoustique, on ne peut pas ignorer Albéniz, la guitare classique, ou Manuel de Falla, et on peut pas ignorer ce qui se passe dans le flamenco. C'est impossible, parce qu'il y a des gens qui font des prouesses, il y a des gens qui méritent d'être reconnus. Il faut pas fermer, faut pas mettre les gens dans des tiroirs.
Alors justement, Raphaël, est-ce que c'est pas au départ une barrière technique qui empêche justement ceux qui ont démarré, je dirais, dans le jazz manouche de franchir le pas?
À mon avis, avec un médiator, avec un plectre, quand vous jouez du flamenco, vous allez faire autre chose qu'un guitariste de flamenco traditionnel qui joue avec la main droite, avec le golpé et tout ça. Vous allez devoir adapter, vous adapter à un style et à une façon de faire, une façon de jouer qui ne ressemble pas vraiment et qui ressemble parfois. Parce que parfois les gens me disent, c'est marrant, on dirait que vous jouez avec les doigts. Et parfois, les gens me disent, tiens, c'est marrant, là, par contre, on reconnaît bien que vous jouez avec un plectre. Donc, moi, c'est un choix que j'ai fait, parce que j'ai envie de jouer du flamenco, et mes amis m'ont dit, joue-le comme ça. Et j'ai continué courageusement. Ça s'est jamais mal passé en public. Je sais que beaucoup de gens, maintenant, peut-être tout le monde ne peut pas vous aimer, hein, à 100%, mais moi, en tous les cas, j'aime le faire, et les gens qui m'entendent jouer cette musique sur scène sentent que j'aime la donner et la partager.
Voilà. Alors Raphaël, vous êtes donc un instrumentiste mais aussi un grand artiste, et j'aurais une question, je m'adresserai directement à l'artiste. J'avais dialogué déjà avec un maître de flamenco en Espagne qui me racontait quand jouait une taranta par exemple de sa composition, certaines images émotionnelles concernant sa vie privée remontaient en flèche de manière immédiate. Alors justement, Raphaël, quand vous composez un morceau, ou quand vous êtes sur scène, que ce soit du manouche, du flamenco, du classique, est-ce que vous avez forcément des images qui viennent, du style rêverie par exemple? Et est-ce que ce sont toujours les mêmes images qui reviennent? Ou est-ce que justement, est-ce qu'il y a certains morceaux que vous jouez, ou vous prenez uniquement du plaisir, uniquement avec ce morceau?
De toute façon, vous savez, pour un guitariste, je pense que chaque morceau, chaque musique a son histoire. Je pense que quand on joue un morceau sur scène, tout dépend de l'ambiance. Mais si le morceau est concerné par une histoire qui vous appartient, c'est certain qu'à chaque fois vous allez y donner de l'émotion, ça va se faire naturellement.
Et en général, c'est une question purement artistique. Est-ce que vous ne pensez pas que pour qu'un morceau musical puisse vivre au fil du temps, pour éviter qu'il se sclérose en quelque sorte, si c'est pour employer ce terme, est-il pas préférable justement d'y coller d'autres images ? Est-ce que le fait d'y mettre toujours les mêmes images qui reviennent, les mêmes vécus, est-ce que ça ne peut pas scléroser justement le morceau ?
Oui, il faut changer de morceau. Il faut faire... Si vous parlez d'une taranta, par exemple, il faut en composer une autre, alors.
D'accord.
Il faut essayer de transformer... Il faut laisser tomber... Vous savez, quand je compose un morceau, en fait, je dis toujours le flamenco. Pour moi, c'est... Il y a le mode ibérique, hein, la mineur, sol majeur, fa majeur, mi majeur. Hein. Et vous avez quelques grains de riz, quelques morceaux de poulet, quelques gambas pour faire une paella pour 100 personnes. Vous devez donc multiplier les pains. C'est un peu comme dans la Bible. En fait, pour moi, c'est ça qui m'a beaucoup touché dans le flamenco. C'est cette espèce de force de création qu'il faut avoir pour pouvoir toujours essayer de composer. Ben, si vous faites deux boulerias différentes avec des falsettas différentes, c'est un miracle. Pour moi, ça, c'est parce qu'on a peu de choses pour pouvoir s'exprimer et d'un seul coup, on arrive à construire et à faire des chefs-d'œuvre. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup attiré.
En fait, votre réponse, Raphaël, pour répondre précisément à la question que je vous ai posée, c'est que chaque morceau a son histoire et que si vraiment on veut faire passer une autre émotion particulière, il faut recréer un deuxième morceau.
Exactement. Exactement. Ce qui n'est pas facile à faire, je dis toujours aux gens en matière de flamenco. En jazz, vous avez 32 mesures, vous avez un morceau, un standard, il s'appelle Summertime ou ce que vous voulez. Et là, vous avez une grille, donc toute votre vie, vous jouerez tel standard. En fait, en flamenco, vous êtes toujours obligé, après chaque disque, de changer, de retrouver, de rechercher des choses nouvelles avec les mêmes ingrédients. Et il faut faire en fait en sorte que ça ne se ressemble pas et que ça ressemble à que ce soit encore autre chose. Et ça, c'est de l'ordre de la, je veux dire, de presque de l'impossible, quoi. C'est un défi, en fait. C'est un défi, vous savez. C'est un défi un défi à soi-même, en fait. Et c'est aussi sûrement ce qui m'a plu dans ma vie, parce que je pense que la vie est un défi, et je pense que cette musique est un défi à la vie, oui.
Alors Raphaël, avant la deuxième pause musicale, nous allons écouter un extrait de votre album Extremadura, donc, qui est d'ailleurs un titre qui s'appelle Extremadura. Oui. Juste une dernière question, enfin, avant vous reprendre juste après. Est-ce que vous avez intégré des créations plus originales? Bon, vous êtes instrumentiste, vous avez fait beaucoup de scènes. Est-ce que par exemple vous avez écrit des musiques de films ou intégré des créations style genre pièce théâtrale ou de danse?
On m'a souvent dit que je composais des choses qui auraient pu servir à l'image, à des films. Et c'est vrai. J'ai composé notamment des mélodies. Comme Balade au bout du monde, où j'ai fait... c'est une balade qu'on pourrait, on pourrait la mettre dans un film. J'ai composé des pièces comme ça qui... Là, dans mon disque qui va sortir le 15 décembre, parce que je sors un album, il y a un concerto qui s'appelle le Concerto de Venise, en trois mouvements, avec l'Orchestre Philharmonique de Blois. Et aussi, je me suis fait un énorme plaisir en enregistrant l'Adagio du Concerto d'Alan Prouès. Voilà, ça aussi, c'est toutes les images qui défilent sur l'Espagne et qui défile aussi depuis votre enfance, parce que c'est un morceau qui pour moi a eu beaucoup d'importance dans ma vie. Je pense que tous les guitaristes ont rêvé de le jouer, et c'est vrai qu'à chaque fois que je le réécoute, c'est un film, c'est le film de ma vie qui passe par époque, quoi. C'est une musique qui est très très émouvante pour moi. Alors, et je compose aussi des morceaux comme ça, où on pourrait sur des histoires, ça pourrait être un film romantique, ça pourrait être un film sur la nature, ça pourrait être... voilà.
Juste après avoir écouté votre morceau pour Tangos, d'ailleurs, nous reparlerons de votre site où on peut voir donc le prochain album, comme vous dites, qui sortira le 15 décembre. Il y a une super pochette, d'ailleurs, je l'ai vu ce matin.
Ouais, qui s'appelle, qui s'appelle Balade en guitare.
Voilà, c'est,
y a donc une... c'est une guitare qui flotte sur un étang.
Exactement.
Voilà. Et ma mère m'a dit, ma mère qui est assez âgée m'a dit, mais elle est belle ta bochette, mais ta guitare, tu l'as abîmée. Et je lui ai dit, non, t'inquiète pas, maman, elle n'a pas vraiment été trempée dans l'eau. Voilà, c'est un montage.
Ah, c'est très touchant, c'est une forme de naïveté, une petite anecdote très, très touchante. Voilà, donc je vous reprends juste après, ne quittez pas l'antenne, surtout Raphaël. Nous allons écouter donc l'extrait Por Tangos du morceau qui s'appelle Extremadura, donc tiré de l'album du même nom, juste dans l'immédiat, sur
Merci.
Canal Flamenco. Ah, petit problème. Voilà. C'était Por Tangos, donc un extrait de l'album de Raphaël Faïs. Ah, il y a un petit problème. Il y a un petit problème. Il y a un petit problème à la technique aujourd'hui, mais ce sont les aléas du direct. Raphaël, vous êtes toujours avec nous ?
Oui, je suis toujours là, bien sûr.
Voilà. Donc, c'était un morceau donc Por Tangos. Alors, Raphaël, parce que malheureusement, le temps passe très très vite sur Canal Flamenco. Est-ce que vous avez donc des projets, des dates qui vont, des dates de concert, et donc vous allez nous parler également de votre site internet où donc les auditeurs et auditrices pourront avoir de plus amples renseignements sur vos albums.
Oui, donc je viens d'ouvrir une boutique sur mon site, sur Raphaël Faïs, donc sur Google, on trouve facilement www.raphaelfaïs.com. Je sors un album donc le 15 décembre qui s'appelle Balade en guitare et où on retrouve donc Extremadura, Mi Camino con el Flamenco, Andalucía, et on retrouve tous les albums que j'ai fait même avant, classiques, jazz, etc. Donc là je suis en préparation d'un, après Balade en guitare, je suis en préparation d'une nouvelle trilogie sur le flamenco, donc trois albums avec le chanteur Alejandro Jiménez. Et j'inviterai aussi à danser Diana Regaño sur ses albums, mais j'ai des idées de trois disques, mais quand même assez différents, quoi. Voilà. Donc je travaille ardemment sur cela.
Alors très rapidement, Raphaël, donc votre site internet, l'adresse c'est www.raphaelfaïs.com. Alors Raphaël avec un PH, hein, PH.
PH, oui.
A E L.
Aujourd'hui, on pourrait peut-être mettre un F, mais bon, c'est pour moi c'est d'importance.
Voilà. Donc Raphaël Faïs donc .com donc pour avoir tous les renseignements sur la discographie et les vous avez également une grosse partie biographie où vous parlez de votre passage donc dans l'univers classique, jazz et flamenco. Raphaël, malheureusement nous allons devoir nous quitter.
Écoutez, j'étais très très heureux de passer ce moment avec vous et avec tous les aficionados le canal Flamenco sur Toulouse. Je les salue vraiment et je leur présente de futures bonnes fêtes de fin d'année. Voilà.
Voilà. Et je pense que nous aurons l'occasion dans le premier semestre 2013 de reparler de nouveau, Raphaël, car nous avons énormément de choses à dire au niveau de ces univers flamenco et manouche.
Oui. Je pense aussi que je reviendrai un jour sur le jazz. Je pense que je rejouerai. Je pense que je vais créer un spectacle à travers ce que j'ai fait avec patience à travers toute ma vie. Voilà.
Merci infiniment, Raphaël.
Merci à vous, merci à tous.
Et, voilà. Et je vous dis à très très bientôt.
À très très bientôt, hasta luego.
Voilà, non, c'était Raphaël Faïs. Et très rapidement, car l'heure court sur Canal Flamenco et sur Canal Sud FM, nous allons parler des manifestations flamenca en région toulousaine. Nous aurons quelques minutes. Surtout pour rappeler donc que samedi prochain, samedi 8 décembre 2012, à Bruguière, à la salle Bascala, la compagnie Vanessa Domiati présente son spectacle Cendrillon Cuento Flamenco à partir de 20h30, donc samedi 8 décembre, à la salle Bascala à Bruguière. La compagnie Vanessa Domiati, qui nous a rendu visite jeudi dernier. Si vous voulez réserver pour ce spectacle, il y a, notez bien, un numéro de téléphone. C'est le 06 20 32 47 44, je répète, 06 20 32 47 44 pour le spectacle Cendrillon Cuento Flamenco à Bruguière samedi prochain à 20h30. Il y a également un site internet, celui de Vanessa Domiati, www.vanessa-domiati.com. Il y a également ce vendredi, donc à partir de 20h, une soirée spéciale Navida de Noël au Centre Flamenco L'Animenia, dirigé par Anne-Lise Coste. C'est une soirée qui est animée à la guitare par Paco Ruiz. Alors il y a un site internet où vous pouvez avoir de plus amples renseignements sur cette petite fête de Noël, l'Académie L'Animenia, c'est www.lanimena.net. Il n'y a pas de tilde bien sûr sur le N, hein. L'Animenia.net. Donc Centre Flamenco L'Animenia, vendredi 7 décembre à partir de 20h30. L'atelier Soledad Cuesta également a une actualité très riche, puisque cette année, depuis le début octobre, la rentrée d'octobre, il y a eu la création d'un centre flamenco pour enfants En plus des cours flamenco, il y a d'autres activités qui sont proposées, notamment des animations, des goûters d'anniversaire, des goûters de Noël, des veilles corporelles. Il y a également des interventions en milieu scolaire. Et précisément, le samedi 22 décembre de 14h à 15h, il y a un goûter de Noël donc à l'atelier Soledad Cuesta qui, je le rappelle, se trouve dans le quartier de Rangueil, rue Louis-Edoux. Il y a également une fiesta flamenca le soir même à partir de 19h. Donc ça s'appelle deuxième rencontre et partage autour du flamenco. L'atelier Soledad Cuesta qui va organiser pendant tout le premier semestre 2013 également des sábados flamencos avec des tablaos. Et pour commencer au mois de janvier, le 19, samedi 19 à partir de 20h30, c'est Mathilde Fornelli-Anton qui sera en vedette. Donc à l'atelier Soledad Cuesta, et le 9 février, la Daime de Madrid. Alors, il y a également un stage de pata por bulería. Le mieux est que vous ayez sur le site qui est très très bien fait de Soledad Cuesta au www.atelierflamenco.com. C'est très simple à retenir. Il y a également un numéro de téléphone au cas où, 09 53 32 90 19. Antonio Ruiz Quico, également, a quelques dates à proposer à ses auditrices et auditeurs. Notamment, le dimanche 16 décembre, il se produira en solo à Bouloc, durant l'après-midi. Et surtout, les 10 et 11 janvier prochains, en trio avec ses amis Bernardo Sandoval et Serge Lopez, il se produira à la salle bleue Croix-Baragnon. Voilà, donc... Vous pouvez aller sur le site de Antonio Ruiz Quico au www.quicoruiz.fr. Il se produira également le 25 janvier 2013 à l'espace Ravi Prasada. Et je vois que notre ami Majid est arrivé déjà sur le plateau. Il s'impatiente. Il va bientôt me virer à coups de pied si je lui laisse pas l'antenne. Non, je plaisante, il est adorable, Majid. Juste pour terminer, il y aura bientôt Del Pueblo avec Vicente Pradal à Audissus de Blagnac le 29 janvier 2013. Voilà, je vais laisser la place bientôt à Majid. Je vous dis à la semaine prochaine.